Nous sommes au Cinéma Studio avec Denis Valgenwitz. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes là pour une soirée particulière consacrée à l'animation. Alors, on vous connaît, vous êtes réalisateur, assistant de réalisation. Vous avez participé notamment sur Les Moumins, sur la Riviera, à Persepolis ou à Moi Moche et Méchant pour faire une bio extrêmement courte. Le fait d'être au studio là ce soir dans le cadre de La Vague Jeune, vous avez choisi comme thème l'animation n'est pas pour les enfants. Au-delà du côté provoque, on va dire, du titre, qu'en est-il réellement, du coup, selon vous, du public de l'animation actuellement, et est-ce que l'offre pour adultes est suffisante de votre point de vue?
En fait, c'est provoque, mais c'est historique aussi, hein, en même temps. Hein. C'est-à-dire que l'animation a pas toujours été pour les enfants. C'est quand même largement Walt Disney qui a dédié... qui a tourné son travail vers le public enfant. En réalité, c'était pas tellement enfant, c'était surtout un public familial. C'est-à-dire que l'idée de Disney, c'était quand même de pouvoir réaliser des films et produire des films qui pouvaient réunir la famille. En fait, ce qui le frappait beaucoup, c'est qu'il y avait des choses pour les enfants, pas beaucoup, et la plupart des films étaient pour les adultes, en fait. Et lui, ce qu'il voulait, c'était arriver à créer des moments qui pouvaient être partagés. En fait, c'était ça son truc. Et c'est pour ça qu'il a fait les parcs d'attractions, d'ailleurs, après. Parce que c'est la même idée, en fait. C'était de pouvoir créer des endroits avec des activités qui pouvaient rassembler au même moment, sur les mêmes activités, les enfants et les parents, ce qui, à l'époque, était complètement nouveau, en fait. Ça se faisait pas beaucoup. Les parents avaient des activités, les enfants aussi, et c'était relativement séparé. Là, il a réussi à créer quelque chose avec son imaginaire, le sien et celui de ses collaborateurs, qui a eu la force de rassembler les gens. Maintenant, une fois ceci posé, l'animation existait avant Walt Disney, et pendant et après, et il y a toujours eu des réalisateurs qui ont fait des films pour les adultes. Tex Avery faisait beaucoup de choses qui étaient plutôt tournées vers les adultes, et il y avait largement un public adulte pour ses films. Hein. Quand le loup a ses yeux exorbités parce qu'il voit une pin-up, c'est pas une thématique franchement enfantine, hein, pas du tout, hein, c'est un rut. Et ça fait rire les adultes, ça fait rire les mecs, quoi, hein, ces trucs-là. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de réalisateurs qui avaient un travail formel, expérimental, etc. Et tout ça a toujours été très vivant et très présent en animation. On le regarde quand il suffit de regarder l'histoire du cinéma avec des réalisateurs comme Oscar Fischinger ou Len Lai ou Norman McLaren. C'est des gens qui se sont toujours adressés à un public large et adulte. Donc en fait, c'est simplement pour la thématique de cette soirée, elle est là pour réaffirmer cette chose qui est une vérité. Après, l'autre problématique, une fois qu'on a dit oui, c'est pas que pour les enfants, c'est comment on ramène les adultes dans les salles. Et par rapport à la question des propositions qu'on peut avoir aujourd'hui dans les salles de cinéma pour les adultes, c'est en fait en réalité un vrai problème de distribution, mais pas un problème de production. Il y a toujours des films comme Valse avec Bachir, Alois Nebel, et là prochainement d'autres films vont sortir qui sont aussi des films plutôt pour un public adulte. Hein. Quand on regarde même, là, on parlait des expériences que j'ai pu avoir, notamment sur un film comme Persepolis, les enfants s'y retrouvent sur tout le premier tiers parce que Marjane Satrapi raconte son histoire lorsqu'elle est enfant, mais après, sur les deux derniers tiers, on abandonne un peu des thématiques purement qui touchent les enfants et on arrive vers des choses beaucoup plus adultes. Et ces films ont réussi à rencontrer le public parce qu'ils ont été bien distribués, ils ont été bien exploités aussi. Donc le gros du travail, il reste encore beaucoup à ce moment-là. C'est pour ça que des initiatives comme celle des studios et de la Vague Jeune, elle est bien pour ça aussi, parce qu'il faut si on veut que ça continue à se développer, c'est pas les lois du commerce qui vont favoriser ces choses-là. Il faut vraiment pousser et montrer qu'effectivement un public adulte peut être tout à fait concerné par ces productions-là, parce que les films parlent de problématiques qui touchent les adultes aujourd'hui, qui touchent les citoyens par exemple.
Pour revenir à la soirée de ce soir, donc il y a deux films qui sont diffusés, un court-métrage Tempête dans une chambre à coucher et puis un long-métrage Fantastic Mr. Fox. Qu'est-ce que vous préférez dans chacun de ces deux films ?
Ce qui est remarquable pour Fantastic Mr. Fox, c'est qu'il il est symptomatique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde de l'animation, c'est que c'est réalisé par un réalisateur qui vient pas du monde de l'animation. C'est quelqu'un qui a déjà une filmographie importante avec des films tournés en temps réel, avec des acteurs. Et il se saisit de l'animation pour pouvoir toucher une autre dimension de la fantaisie que peut amener le cinéma et pour dire d'autres choses. Et pour moi, ça me touche je trouve que la valeur du film, elle est portée par ça, essentiellement. Tempête dans une chambre à coucher, c'est un film réalisé par deux femmes. Ça aussi, c'est quelque chose de très... on parle beaucoup de la place, là notamment il y a eu beaucoup de débats cette semaine au moment du Festival de Cannes sur la place des femmes au cinéma. Ce qui est une question pour Cannes n'est pas une question pour l'animation. Les femmes ont toujours été très présentes dans le cinéma d'animation avec un travail qui leur est propre. Moi que je distingue pas hein, du travail des hommes, c'est simplement voilà, les réalisatrices ont elles aussi des thématiques et des choses qu'elles amènent. Là, Tempête dans une chambre à coucher, ça parle quand même des relations entre les hommes et les femmes, notamment sur le plan sexuel, entre autres. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il en parle de façon extrêmement naturelle. C'est-à-dire que c'est pas un film à scandale, c'est pas un film qui va heurter la sensibilité, mais qui va questionner les gens sur les relations intimes, les relations des corps, par exemple. Et tout ça dans une mise en scène très très classique. C'est pas du tout, il y a une histoire, c'est pas du tout quelque chose d'édulcoré ou de d'abstrait. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que je disais c'est un film de femmes qui a été réalisé par deux femmes de générations différentes, avec Laurence Arcadias qui est passée par Orléans hein, d'ailleurs hein, par l'Institut d'art visuel d'Orléans, et Juliette Marchand, qui est une réalisatrice plus jeune. Et elles ont collaboré à la réalisation de ce film tout à fait particulier.
Qu'est-ce qui vous motive, artistiquement parlant, pour participer à un projet ?
Ah, écoutez, il y a quelque chose qui est toujours présent chez moi et qui s'affirme au fil des années, qui ne bouge pas. C'est le fait de pouvoir travailler avec des gens différents pour pouvoir rester surpris. Pour une raison simple, c'est que la plupart des projets, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages, sont quand même des projets de longue haleine. On y reste plusieurs mois, on travaille longtemps avec les équipes. Et travailler avec des gens dans une forme de routine m'effraie complètement, en fait. Ça, c'est une sorte d'angoisse que j'ai, c'est de me dire, bon, ben, je vais au boulot, quoi. Donc, en fait... Par exemple, quand vous citiez les films auxquels j'ai participé, un des films auxquels j'ai participé qui sont récents, c'est par exemple les Moomins sur la Riviera. Les Moomins sur la Riviera, c'est vraiment un film pour enfants, pour le coup. Hein. Et c'est pas tellement un film graphiquement et au niveau de ce que ça raconte, c'est pas tellement un univers dans lequel j'avais l'habitude d'intervenir. Et c'est précisément pour ça que j'y suis allé. Il y avait une autre raison aussi, c'est qu'il y a une bonne partie du film qui a été fabriquée en Chine. On a beaucoup parlé, nous, au niveau professionnel, de cette question de qu'est-ce qu'on fait en France, qu'est-ce qu'on fait en Chine. C'est des problématiques qu'on retrouve dans l'industrie aussi. Hein. Et moi, je voulais pas... En général, on condamne la sous-traitance. Hein. On dit c'est pas bien, on va chercher au moins cher, etc. Et là, sur ce projet précis, la production me permettait d'aller dans les studios chinois, dans le studio chinois qui était prestataire, et de pouvoir travailler directement avec les équipes. Et moi, c'était très important pour moi de passer le rideau, d'une certaine manière, de passer cette frontière, et d'aller travailler avec les gens, en fait. Et on se rend compte que, quand on va travailler dans ces studios, qu'on a la même base. C'est-à-dire, on travaille sur le même matériel, on a les mêmes techniques, en quelque sorte, avec des variations, hein, bien sûr. Et c'était aller à la rencontre de ce qu'on condamne comme une sorte de bloc informe, comme ça, en disant la sous-traitance. C'est pas du tout la même chose. On sous-traite en Chine, on sous-traite en Inde, on sous-traite aujourd'hui beaucoup aux Philippines. Et on se rend compte que c'est des gens extrêmement professionnels et avec une culture aussi, une culture de l'image, une culture de la narration, qui est très différente de la nôtre, et ça m'intéressait de travailler là-dessus. Notamment parce que ça permet de redéfinir la frontière qu'on dessine à chaque fois entre la partie qu'on va faire en France et la partie qu'on va faire en Chine, ou à l'extérieur. Très souvent, on en voyait beaucoup pour faire des économies, hein, et en fait, c'était pas forcément pertinent. Je pense que il faut. Je pense que le fait d'observer précisément ces pratiques-là permet de se rendre compte qu'il vaut mieux développer une partie plus importante en France avec des techniciens français avec lesquels on partage les mêmes la même culture, les mêmes notions, de manière à consolider le film, en fait, et pas laisser partir des pans entiers du film avec parfois des problèmes de communication avec les équipes. Je peux prendre un exemple très simple. Par exemple, dans la plupart de nos films, les personnages montrent un certain nombre d'expressions comme l'étonnement ou la stupéfaction, des choses comme ça. Les Chinois, dans leur dramaturgie, n'expriment pas du tout quelque chose comme la stupéfaction d'un personnage de la même manière. Nous, on va écarquiller les yeux et faire tomber quelqu'un à la renverse, là où eux vont rester plutôt stoïques. Donc du coup, ils ont du mal à interpréter exactement les mouvements. Qu'est-ce que c'est que ces mouvements-là? Donc l'idée, c'est de pouvoir beaucoup plus travailler en amont en France pour préparer les plans, pour bien les préparer de façon précise, de manière à ce qu'ils aient moins d'ambiguïté et moins d'hésitation au moment de fabriquer ces parties-là du film. C'est ce que ça m'a appris le plus, je pense. C'est qu'effectivement, l'idée, c'est pas de remettre en cause le principe de travailler avec d'autres. Finalement, on travaille avec des collaborateurs et c'est aussi des échanges. On apprend aussi en travaillant avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous. En revanche, c'est l'idée de le faire mieux, c'est de le faire de façon plus intelligente et plus cohérente par rapport au projet artistique qu'on porte. Je pense que si on avait dû, par exemple, un film comme Persepolis a été fait entièrement en France, et je pense qu'il n'aurait pas eu la même qualité si on avait dû sous-traiter des parties entières, ou quand on regarde quand même d'un bout à l'autre du film, notamment le travail d'animation, la direction d'animation, elle est extrêmement fine dans Persepolis. Les personnages sont relativement simples graphiquement, donc il faut que les sentiments des personnages sont quand même, qui racontent des choses quand même pas très archétypales, hein. C'est quand même des choses assez subtiles, parfois avec des dimensions politiques, sentimentales, sociales. Ça pouvait être fait qu'avec des gens qui partageaient le même langage, avec les mêmes finesses de langage, par exemple. Donc ça m'intéressait pour ça. Mais en fait, en gros, pour revenir à votre question, pardon, parce que j'ai fait un grand virage là, une grande boucle, c'est l'idée de pouvoir toujours être surpris, de pouvoir apprendre quelque chose sur les projets.
Justement, comme on a fait une boucle en parlant des Moomins, il y a eu une exposition autour du monde des Moomins, qui est d'ailleurs encore actuellement visible à Angoulême. Ça a été surtout plébiscité lors du festival d'Angoulême. Je voulais savoir si des expositions comme ça apportaient quelque chose au cinéma d'animation, si ça permettait justement, je sais pas, de provoquer un élan, et si vous vous associez à ce genre d'exposition ou d'événement.
Moi, j'étais pas impliqué directement sur ce projet d'exposition qui était porté par le Festival d'Angoulême. En revanche, ce que ça apporte, qui est très important, c'est que ça permet au public, notamment, de mesurer ce que ça signifie de produire des films à partir de l'imaginaire, par exemple, graphique de quelqu'un qui a travaillé plutôt dans le domaine de la presse, de l'édition pour enfants. Et Tove Jansson, c'est un très bon exemple parce qu'elle a... Elle a un univers graphique absolument unique. C'était aussi une peintre. Et c'est quelqu'un qui a un dessin extrêmement puissant, qui peut faire penser à Sempé par certains côtés. Il y a quelque chose de minimal et de très fort. Et ce que ça montre, c'est qu'effectivement, mettre en production un film où on va devoir normaliser le dessin pour pouvoir le faire animer par différentes équipes, par différents animateurs... Il y a un vrai enjeu de ne pas perdre l'âme ou la spécificité des personnages. En l'occurrence, il y a eu beaucoup d'adaptations des Moomins, et ce qui a été reconnu par les héritiers de Tove Jansson, qui est donc la créatrice des Moomins, c'est que c'est peut-être la version la plus proche de ce que Tove Jansson avait pu faire, mais c'est une partie précise de sa production. Les Moomins sur la Riviera sont inspirés des strips des bandes dessinées qu'elle avait publiées dans la presse anglaise et qui graphiquement étaient un peu différents de ce qu'elle pouvait faire quand elle travaillait notamment sur les illustrations de livres pour enfants qu'elle écrivait, qui étaient plus luxuriantes, qui étaient plus qui tiraient plus vers l'enluminure, vers quelque chose de très précieux, alors que ce qu'elle faisait pour la presse était beaucoup plus graphique, plus direct comme ça. Mais le film est assez proche de l'esprit de ce qu'elle avait pu faire pour les strips, en tout cas.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle en tant que président de l'AFCA, donc Association française du cinéma d'animation ?
Le travail que j'ai pu faire dans un premier temps au sein du conseil d'administration, et ensuite en tant que président de l'AFCA, ça a été ces dernières... Il faut dire une chose, c'est que l'Association française du cinéma d'animation, c'est une association qui a plus de 40 ans et qui a œuvré pendant des dizaines d'années, au moment où l'animation n'était pas très répandue, pas très diffusée. Elle a beaucoup travaillé pour montrer des films d'animation qui n'étaient pas forcément des films qui avaient une exploitation commerciale forte. Et notamment, ça a permis en France de montrer quand même beaucoup de cinématographie, de l'animation chinoise, de l'animation des pays de l'Est, de l'animation anglaise, enfin de tous les pays. Et ça, c'est une association qui a fait un travail remarquable pendant des années dans ce domaine. Mon rôle en tant que président, ça a été de retravailler sur la définition des missions de l'AFCA, notamment depuis cette vague qu'on connaît depuis 20 ans, bientôt 20 ans maintenant en France, où il y a eu, en France et dans le monde, hein, où il y a eu une révolution autour de l'animation, où le cinéma d'animation est devenu un média présent, omniprésent partout. Et du coup, ça a changé énormément la topographie des gens qui montraient des films, etc., en France. Par exemple, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, l'AFCA fait toujours la promotion du cinéma d'animation. Par exemple, quand on regarde le travail que l'AFCA fait en France, elle le fait sur un territoire où il y a énormément d'initiatives qui sont portées par différentes structures, comme celle-ci, par exemple, comme ici, des associations, des lieux de diffusion qui montrent des films d'animation. Donc du coup, on a vraiment restructuré l'AFCA dans une direction qui vise de plus en plus à un travail de coordination. De coordination de ces différents lieux, et notamment ce qui incarne le plus et le plus clairement cette orientation, c'est la création de la fête du cinéma d'animation chaque année en octobre, depuis maintenant quasiment 10 ans, et qui coordonne effectivement la diffusion des films partout en France, en fait, et maintenant dans le monde aussi, parce que ça essaime via le réseau des instituts français dans tous les pays du monde, où on montre des films français dans tous les pays du monde.
Quel film d'animation vous a particulièrement bluffé dernièrement et pourquoi ?
Je pense que le film qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est un court-métrage. C'est un film d'un réalisateur d'origine irlandaise qui s'appelle David O'Reilly. Et ce film s'appelle The External World. C'est un film qui est en 3D. Moi, je suis pas particulièrement amateur de 3D en général. C'est pas forcément ces films-là qui vont le plus me toucher. Mais David O'Reilly a fait un travail étonnant graphiquement, notamment en utilisant, quand on fait un film en 3D, il y a plusieurs étapes de fabrication, et les premières étapes, elles sont avec des personnages qui sont pas complètement aboutis, on voit encore des polygones sur leur volume, en fait. Ils sont encore un peu, par exemple, la tête ronde d'un personnage va encore avoir des facettes, elle est grossière. Et lui s'est arrêté à ce stade-là, il a gardé les personnages un peu bruts, et il raconte des histoires d'une façon, il a un découpage, il a une narration qui est extrêmement contemporaine, et il arrive à nous toucher alors qu'il raconte des histoires vraiment pas toujours faciles à comprendre. Et il fait des films extrêmement puissants. Et The External World est un film complètement étonnant, avec parfois une violence dans ce qu'il montre. Et elle vient pas forcément de façon explicite. Il n'y a pas forcément des crimes ou des choses horribles. Elle vient par le son, elle vient par la répétition des scènes. Parfois, les personnages refont plusieurs fois la même chose jusqu'à ce que leur action soit vide de sens. Un peu comme certaines personnes peuvent éprouver dans certains travaux, par exemple. Ça fait penser à ce qu'on peut, au témoignage qu'on peut avoir de certains ouvriers dans certaines usines, où le fait de répéter de façon mécanique toujours les mêmes mouvements, les mêmes gestes, chaque jour de leur vie, ils ressentent une sorte de vide, comme ça, et le film nous fait ressentir ces choses-là. Et c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, et qui m'a fait... j'étais un peu en désamour avec l'animation à ce moment-là, c'est-à-dire j'avais moins d'intérêt, et il a réveillé mon intérêt pour l'animation en général.
Pour finir cette année, on finit de façon un petit peu ludique. On vous demande quel genre d'habitation vous choisiriez parmi les 5 qu'on va proposer.
Oh mon Dieu. Allez.
Donc il y a le repère secret d'Elvis en Antarctique. Ouais. Il y a le 221 bis Baker Street, la forêt de Sherwood, le manoir de la famille Adams ou la caverne des Flintstones.
Ah, j'hésite entre le repère secret d'Elvis en Antarctique et la caverne des Flintstones, en fait. J'ai l'impression que je viens de la cachette secrète d'Elvis en Antarctique et que je vais vers la caverne des Flintstones. Je suis à mi-chemin entre les deux, en fait. Je me déplace, je vais vers ma nouvelle résidence.
Merci.
Merci beaucoup.